Alors nous accueillons tous les êtres de lumière qui collaborent avec nous. Nous accueillons également les êtres de lumière qui, par ce vortex de lumière qui sera créé ce soir, se reconnaîtront et voudront également collaborer avec nous ce soir. Et c'est dans cet accueil que nous souhaitons la bienvenue à ce véhicule de conscience, à cette réflexion de cette conscience supérieure dans laquelle la majeure partie de chacun de nous est. Et nous remercions le chariot blanc pour cette réflexion. Alors ce soir, nous sommes réunis pour la traversée du miroir. C'est le thème de ce soir. Est-ce que vous avez un enseignement à ce sujet?
Avez-vous la certitude que vous êtes prêt pour cette aventure? Nous allons procéder avec un commentaire. Ce sera peut-être moins laborieux. Un jour, il y avait un homme âgé qui marchait dans un parc. Il avait observé depuis un certain temps une dame de son âge qui venait aussi contempler le lever du soleil. Un matin, il osa s'approcher d'elle et il lui dit : « Vous venez ici chaque matin ?»« Je contemple, » dit-elle. « Et que contemplez-vous ?»« Je contemple la voie royale. » Et qu'est-ce que la voie royale? C'est la traversée du miroir. Je ne comprends pas ce langage, dit le vieillard. Moi non plus, je ne le comprenais pas il y a quelque temps. Mais maintenant, je crois le comprendre davantage. Que faut-il faire pour comprendre cette voie royale et cette traversée du miroir? Il faut aller voir l'enfant. Pouvez-vous me dire où il est situé, s'il reçoit qui que ce soit? Il est ouvert, il est prêt, il vous attend, il me l'a dit. Comment peut-il vous l'avoir dit? Je ne connais pas cet enfant dont vous parlez. Vous, vous ne le connaissez pas, mais lui, il vous connaît très bien. L'homme attendit quelques jours, mais il n'en pouvait plus de sa résistance. Alors il alla frapper à la porte. « Vous êtes bienvenu, » dit l'enfant. « Je vous attendais depuis longtemps. » L'homme trouvait très étrange de voir qu'il devait s'asseoir devant un enfant qui lui paraissait si jeune et si différent de lui-même, et que lui, un vieillard, qui avait quand même l'expérimentation de toute la vie, et qui devrait raconter des choses à cet enfant. Ne vous inquiétez pas. Tout ce qui passe dans votre tête, c'est inutile, dit l'enfant. C'est votre ego. Tu peux lire dans ma pensée? Bien sûr, dit l'enfant. Et un jour, vous lirez dans la mienne. Alors l'homme le regarda et il lui dit, « Je voudrais faire la traversée du miroir. » Ce n'est pas une étape facile, lui dit l'enfant, mais c'est une étape extraordinaire. Celui qui la traverse quitte la sixième race et entre dans la septième race. Qu'est-ce que la sixième race? C'est une race de consommation, mais la septième race, c'est une race de communion. Alors je veux connaître cette race, dit l'homme, qui ne savait pas trop de quoi il parlait. Mais l'enfant s'amusait bien des jeux de l'ego qu'il voyait passer devant lui, car il sentait bien la sagesse de cet homme. Alors l'homme se mit à raconter tout ce qu'il avait vécu dans sa vie, comment son épouse l'avait quitté, comment un de ses fils était allé à la guerre, était mort, le laissant dans la peine et dans la douleur, comment un autre de ses fils, qui était handicapé, demeurait souvent présent chez lui et dont il n'arrivait pas à se détacher. L'enfant écoutait tout cela et il avait plein de compassion. Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire pour traverser ce miroir ou des choses à connaître? Il y a plusieurs étapes, dit l'enfant. Mais l'important, c'est de savoir que vous ne les traversez pas toutes simultanément. Ainsi, vous pourrez vous donner le temps d'intégrer. Alors, quelle est la première étape? La première, elle semble très simple, et pourtant, elle est contrariante pour quelques-uns. La première loi, ou la première règle, ou la première clé, ou le premier miroir à traverser, c'est d'avoir la connaissance de la loi de cause à effet. Savoir que cette loi est universelle et qu'elle est cosmique et que personne ne peut y échapper, même celui qui a de la colère contre cette loi. Que dois-je faire pour connaître cette loi, dit l'homme? Observez dans la conscience vos gestes quotidiens et ne jamais oublier que la semence que vous avez mise en terre sera la récolte que vous aurez demain. J'observerai ceci, dit l'homme. Je crois que je connais déjà cette loi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a un deuxième miroir, dit l'enfant. Ce deuxième miroir, c'est de savoir, avoir cette connaissance que tout ce que tu vois est ce que tu es. Ça, je ne comprends pas tellement, dit l'homme. Alors, dit l'enfant, si tu vois passer quelqu'un devant toi et qu'il suscite en toi la colère, sache que tu es la colère. S'il suscite l'amour ou la tendresse, sache que tu es l'amour et la tendresse. S'il suscite plutôt le dégoût ou le mépris, sache que tu es dégoût et mépris. Mais c'est terrible, dit l'homme. Je ne peux pas avoir un tel regard. Alors, dit l'enfant, abandonne. Non, non, dit l'homme, je ne veux pas abandonner, mais je trouve cela très exigeant. C'est exigeant tant que tu t'en crées une contrainte, dit l'enfant. Mais si chaque jour tu réfléchis, geste par geste, mot par mot, regard par regard, tu verras progressivement que ton regard se transformera et qu'il deviendra amour, parce que tu sauras que ce que tu regardes, c'est ce que tu es, et ce que tu veux être, c'est l'amour, n'est-ce pas? Bien sûr, dit l'homme, et la sagesse, et la conscience, et la connaissance. Alors tu seras tout cela avec ton regard. C'est peut-être moins compliqué que je le pense, dit l'homme. De toute façon, tu m'as dit que j'avais du temps. L'enfant éclata de rire, mais il ne dit rien. Est-ce qu'il y a un autre miroir? Oui, il y a un troisième miroir. Et quel est ce miroir? Celui-là, il est plus difficile, dit l'enfant, et il sera contraignant pour toi. Alors, nomme-le, je veux savoir maintenant, dit l'homme, qui était impatient. Ton impatience ne te sert à rien, dit l'enfant. Tu sais, les marches, tu dois les monter une à une. Tu ne peux pas enjamber ainsi la rivière. C'est bien, dit l'homme, qui devenait plus tolérant. Alors, quel est ce troisième miroir? Ce miroir, dit l'enfant, c'est de ne t'attacher de façon particulière à personne. Oh là, ça c'est impossible, dit l'homme. N'oublie pas qu'ici nous sommes sur la terre, que nous sommes des humains, que nous sommes dans le monde de l'expérimentation. Tu fais monter la colère en moi. L'enfant le regardait dans sa colère et il lui dit, tu es beau dans ta colère, elle me révèle ta sagesse. Alors l'homme dit, je sais que derrière ma colère, je veux comprendre. Alors, dit l'enfant, lorsque tu aimeras tous tes frères de façon égale, sans jugement, car lorsque tu préfères quelqu'un, c'est que tu portes un jugement sur les autres. Mais ça, il faut être Dieu pour avoir un tel regard. Bien sûr, dit l'enfant, est-ce que ce n'est pas cela que tu veux actualiser en toi? Bien sûr, dit l'homme, mais tu vois, j'ai toujours eu la nuque raide, j'ai toujours eu la tête dure. Alors ce passage, il faudra te donner du temps pour le traverser, mais en avoir chaque jour la conscience. Ainsi, tu commenceras à te transformer. C'est mon fils, dit l'homme. Tu vois, lui, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Comment pourrais-je aimer les autres de façon égale à mon fils? Alors que ton fils devienne ton regard, dit l'enfant. Que veux-tu dire? Si tu aimes l'univers entier, à travers cet amour que tu as pour ton fils, tu verras que tous les êtres de la terre deviendront tes fils et tes frères et tes sœurs, et tu seras dans la joie. Ah, dit l'homme, ça c'est un secret, je ne l'oublierai pas. Est-ce qu'il y a d'autres miroirs? J'espère que nous tirons à la fin. Pas tout à fait, dit l'enfant. Il y en a 7, nous sommes au 4e. Alors, vas-y, dit l'homme, tant qu'à faire, allons-y. L'enfant lui dit, la prochaine étape, c'est de mourir au monde de l'expérimentation. Ça, ce n'est pas être sur la terre, c'est flotter dans les univers, c'est se balader dans les nuages. Peut-être, dit l'enfant, mais celui qui a acquis une telle conscience peut entrer dans cette étape. Il peut se détacher de l'expérimentation afin de pouvoir prendre toute son énergie pour la tourner vers lui-même et alors créer les épousailles entre les deux forces et les deux puissances qu'il habite. Est-ce que tu veux dire que je peux m'épouser? Bien sûr, dit l'enfant. Il y a longtemps que les deux parties de toi que tu croyais divisées, que tu appelais mâle et femelle, que tu appelais l'homme et la femme, que tu appelais la mère et l'enfant. Il y a longtemps que ces deux parties s'appellent à l'intérieur de toi. Et alors, tu peux te préparer pour les épousailles. Tu veux dire que toute l'énergie que je mettais à chercher au dehors dans l'expérimentation, je dois la tourner vers moi? Exactement, dit l'enfant. Mais c'est drôle, c'est ennuyant. Ceci veut dire que je n'aurai plus d'amis? Bien au contraire, dit l'enfant. Lorsque les gens qui seront auprès de toi et qui verront cette lumière, ils la sentiront au-dedans de toi. Ils voudront tous être tes amis. Et au lieu de les éloigner de toi, tu les rapprocheras de toi. C'est bien, dit l'homme. Je crois que je vais prendre le risque. Mais ça, je me donne au moins 1 an ou 2 pour traverser. Et il reste d'autres miroirs. Encore toi, dit l'enfant. Le suivant, c'est de prendre le cœur et de l'amener dans la connaissance. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, les gens ont confondu le cœur. Ils ont cru que le cœur était attaché à l'émotion et ils ont brouillé son énergie. Mais si tu prends le cœur et que tu l'amènes dans la connaissance, alors le cœur ne peut plus être brouillé. Il devient une antenne parfaite et là, il reçoit les messages cosmiques. Tu crois que moi, je peux recevoir des messages cosmiques, dit l'homme en regardant par terre. Bien sûr, dit l'enfant, quand tu y croiras, si tu t'ouvres à cette énergie. Et est-ce que tu veux dire que j'aurai un cœur mental et que je deviendrai indifférent à tout? Mais pas du tout, dit l'enfant. Tu auras un cœur qui sera si grand que tout l'univers voudra venir s'y loger. Ah là, c'est bien. C'est contre la solitude, dit l'homme. Tu as peur de la solitude, dit l'enfant. Oui, tu sais, la solitude, je la vis depuis que je suis née. As-tu toujours été seul? Non, j'étais d'une famille de 15 enfants. Mais parmi les 15, je me suis toujours senti seul. Et même lorsque j'avais une épouse et des enfants, je me suis senti seul. Et dans mes projets de travail, je me suis senti seul. Alors tu vois, la solitude, c'est le refus de retourner à soi-même. J'ai compris, dit l'homme, n'insiste pas. Parle-moi des 2 autres miroirs. Le prochain miroir, il est différent un peu. Et celui-là, tu ne peux l'atteindre que si tu as traversé les autres. Alors, quel est-il? Est-ce que tu peux m'en parler quand même? Je vais t'en parler un peu, mais je t'en reparlerai plus tard, lorsque ta conscience sera plus ouverte. Alors, quel est ce miroir? Ce miroir est de te voir face à face, d'enlever ton masque, qui est le masque animal humain, pour être capable de te voir en tant que Dieu. Et là, à ce moment-là, ta pensée va devenir la pensée universelle, consciente et cosmique. Et alors, tu pourras entendre les autres pensées. Et tu deviendras si conscient de cette pensée globale que tu pourras participer à la transformer. Mais cette étape est plus difficile, elle est plus périlleuse. Alors tu reviendras et nous prendrons du temps. Et le septième miroir, quel est-il? Le septième miroir, c'est la plongée dans l'infini. La plongée dans l'infini de la joie, de la sérénité et de la paix. Et là, lorsque tu as atteint cet état, tes frères et tes sœurs ne sont plus jamais séparés de toi. C'est comme si avec eux, tu formes un grand véhicule christique. Et alors, la joie chante en toi. Je voudrais traverser ce miroir en premier, dit l'homme. Ah, tu as de la chance, dit l'enfant. Quelque part, tu peux le faire si tu le veux. Si tu contemples et si tu comprends la loi du silence et si tu enlèves le masque que tu portes depuis des millénaires, alors tu commenceras déjà à connaître cette joie. Mais pour la connaître dans sa plénitude, il faut que tu traverses les sept miroirs. C'est toute une corvée, dit l'homme. Il ne doit pas y en avoir beaucoup qui traversent. Je vais te dire un secret, dit l'enfant. Tu vois dans le parc, tu as vu la vieille dame. Tu t'es approché d'elle sans trop savoir pourquoi. Elle t'a dit où j'habitais. Et aujourd'hui, tu prends l'enseignement et tu es motivé à traverser ce miroir. C'est elle qui t'a attiré parce qu'elle l'avait traversé. Et elle en a attiré 1000 autres. Alors toi, en le traversant, tu permettras à 1000 autres d'être attirés pour traverser également ce miroir. Et alors, lorsque nous aurons tous traversé le miroir, qu'adviendra-t-il? Alors, ce sera la Jérusalem céleste. Ce sera les 1000 années de paix. Et tu feras partie de cela. Je serai avec toi, dit l'enfant. D'où me connais-tu? Dit l'homme. Je te connais du dedans de toi. L'homme devint silencieux. Et alors, il comprit qu'il n'avait jamais vu d'enfant extérieur à lui, ni de vieille dame, mais qu'il n'avait toujours parlé qu'avec lui-même. Et c'est le commentaire que nous avons pour vous aujourd'hui. Peut-être vous apparaît-il un peu compliqué, mais laissez vos cellules, qui sont intelligence et sagesse, le capter, afin que vous puissiez, sans, nous dirons, l'apport de votre mental, qui voudrait bien brouiller le réseau, ingérer cet enseignement que nous avons donné ce soir. Et maintenant, nous continuerons l'enseignement en répondant à vos questions.
Comme première question, est-ce que la traversée du miroir implique que l'on doit quitter notre corps physique?
Nous vous dirons, votre corps physique, lorsque vous aurez accepté de mourir à la matière, pour que cette matière renaisse, votre corps physique, il restera, nous dirons, une vibration ténue, mais une vibration. Et alors, à ce moment-là, vous serez si détaché du corps physique que vous ne vous poserez même plus cette question. Parce que vous aurez connu une autre énergie que vous connaissez déjà sous le thème d'énergie électrique. Et cette énergie, elle consume. Elle ne consume pas dans la mort, elle consume dans la résurrection. Il y en a qui vont quitter le plan terrestre parmi vous, qui auront déjà créé leur corps de lumière et qui accepteront de passer par ce que vous appelez la mort physique, afin de pouvoir canaliser cette énergie et que la mort n'existe plus. D'autres s'y prendront autrement.
Alors la prochaine question, c'est: il y a dans ma vie un miroir plus difficile à traverser. À chaque fois que je crois y être arrivé, je me crée une situation qui me fait voir que ceci n'est pas complètement fait. Même en y mettant toute ma conscience, ma volonté et mon amour, j'aimerais connaître, entre guillemets, la recette miracle pour finaliser. Merci.
La recette miracle, c'est de vous tourner vers vous-même. Tant que vous allez vous acharner à traverser des miroirs qui sont à l'extérieur de vous, vous allez vous maintenir dans l'expérimentation. Nous ne disons pas que l'expérimentation n'a pas sa raison d'être. Elle vous a permis de traverser cette sixième race. Mais si vous voulez accéder à la septième race, alors tournez-vous vers vous-même, faites-vous face, et levez le masque, comme il était dit dans le commentaire d'ouverture. Alors c'est vous que vous verrez. C'est vous que vous verrez dans toutes circonstances. C'est vous que vous verrez dans toutes les projections extérieures que vous avez eues. Nous vous dirons, la plus grande difficulté de l'être humain n'est pas nécessairement de traverser les autres miroirs, même si ceci paraît parfois un échec et un long voyage périlleux. Nous vous dirons que la traversée la plus difficile, c'est la traversée de son propre miroir, parce qu'elle suppose que vous tournez vers vous-même, parce qu'elle suppose que vous fassiez le silence et que vous entriez dans la contemplation, parce qu'elle suppose aussi que vous franchissiez des étapes qui sont plus difficiles, qui sont comme des formes de mort, mais des morts qui vous amènent dans la lumière, dans la sérénité et dans la joie. Et c'est comme si vous aviez peur de cette joie et de cette sérénité et de cette plénitude. Vous avez peur de la plénitude parce que vous êtes habitué à la souffrance et à l'expérimentation. Alors vous vous cramponnez à cette souffrance et cette expérimentation comme si elle était la seule voie. Mais la voie véritable, c'est le retour à vous-même. C'est ça le miracle.
Vous avez déjà répondu en grande partie à la question suivante. Mais s'il y a un autre commentaire, il serait le bienvenu. Alors, est-ce que, en tout temps, la personne qui est devant nous, quelle qu'elle soit, est notre miroir?
Nous vous dirons, oui, elle est votre miroir d'expérimentation. Mais nous vous dirons à des niveaux différents. Quelqu'un, par exemple, peut représenter 8% de votre énergie. Nous donnons un exemple. Imaginez que vous vous retrouvez toujours devant la même personne, qui est une personne qui est triste et déprimée et colérique en plus. Et alors vous vous dites, je suis très fatiguée d'avoir cette personne dans mon aura. Elle sera là tant que vous n'aurez pas compris qu'elle reflète une partie de vous qui est dans cette tristesse, une partie de vous qui est dans cette colère, ou dans cet état taciturne. Peut-être cette personne est-elle là uniquement à un demi de 1%, mais si ce pourcentage a besoin d'être libéré pour vous, vous allez vous créer cette réalité. Alors, bien sûr, toute personne qui est devant vous est une partie de ce que vous êtes.
Comment réagir à ce moment-ci si, en prenant conscience de ce qui vient d'être dit, que l'émotion qui est véhiculée par cette personne qui est en avant, que j'ai, disons, en grande partie la conscience de l'avoir moi-même traversée. Alors, quelle attitude prendre avec ceci?
Nous vous dirons, si vous avez la conscience que vous l'avez presque totalement traversée, et ne vous créez pas d'illusions si elle est là, c'est parce qu'il vous reste un petit centième quelque part caché dans le grenier ou dans la cave. Alors ayez le courage de faire face et d'aller voir. Mais sachez aussi que vous pouvez être devant cette personne pour canaliser cette forme énergétique, c'est-à-dire pour servir de sujet afin que la personne qui est placée devant vous puisse arriver à se libérer. Et nous vous dirons, plusieurs parmi vous sont des sujets d'évolution pour les autres. Ceci demande un grand amour caché, par exemple d'être celui qui est l'objet de la colère ou l'objet de la jalousie ou l'objet du mépris. C'est difficile d'être cela, mais si vous avez véritablement guéri ces blessures à l'intérieur de vous, vous ne serez plus touché et vous accepterez de canaliser cette forme énergétique pour que la transmutation collective se fasse.
Après, vous offrez un peu de l'eau venant de la source.
Toujours bienvenu.
Alors, la prochaine question, vous en avez quand même parlé, mais s'il y a autre chose, et elle est, pourriez-vous expliquer en quoi consiste exactement traverser son propre miroir? Merci, je vous aime.
Nous vous dirons, traverser son propre miroir, c'est traverser tout le monde de l'illusion et traverser en même temps tout le monde de la limitation. Si vous vous asseyez avec vous-même et que vous prenez véritablement du temps pour observer où sont vos peurs, où sont vos peines, où sont vos inquiétudes, où sont vos attentes, où sont vos désirs, dans chaque peine, chaque attente, chaque peur, chacun de ces mouvements intérieurs, il y a une partie de limitation. Car si vous saviez que vous êtes illimité, vous n'auriez peur de rien et vous n'auriez besoin de rien. Alors, pour être capable véritablement de traverser votre miroir, il faut savoir qui vous êtes dans cette matière. Bien sûr, lorsque vous aurez été capable d'éliminer une à une chacune de ces limitations, alors ce qui va rester au centre, ce sera le divin. Quand vous aurez cette conscience absolue du je suis et du divin, où il n'y a aucune limitation, ni dans la matière, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la pensée, ni dans la création, alors vous ne serez plus ici.
Alors, pourquoi lorsque j'ai lu partiellement le livre, le mot que je lis, c'est les homismes, intitulé « Vers l'âge d'or », c'est ça, « Libérez-vous de toute chaîne ». J'ai eu peur et j'ai fait des cauchemars et j'ai même brûlé ce livre.
Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, donner l'auteur de ce livre?
C'est possible. C'était Monseigneur, et puis c'est un nom style indien. C'est les homismes, mais j'ai quand même une cassette ici, qu'on dit que ça vient du centre, le centre mère et le monastère de Mandavum, Shambhazalem.
Un instant, s'il vous plaît. Cherchons cette information. Nous vous dirons que votre crainte n'est pas une crainte fondamentalement justifiée, mais quelque part aussi il y a à l'intérieur de cet organisme une pensée qui est une pensée de secte. Et nous vous dirons que les sectes sont dangereuses. Non pas que les rassemblements de personnes sont dangereux, mais là où il y a une secte, il y a toujours quelqu'un qui cherche le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le plus grand danger auquel vous pouvez être soumis et auquel vous pouvez vous soumettre vous-même. Alors, il est fort possible que lorsque vous avez fait la lecture de ce volume, vous avez senti cette énergie de pouvoir à l'intérieur de ce volume et, nous dirons spontanément, votre intuition vous a appelé à le détruire. Cependant, dans ce volume, il y avait des choses vraies, mais cependant, toujours relatées avec une forme de pouvoir caché. Avez-vous senti ce pouvoir?
Réponse est oui.
Alors, si vous avez senti ce pouvoir, chère dame, il était sage pour vous de vous en libérer. Cependant, dites-vous bien que vous êtes protégée et que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Si vous laissez cette peur entrer à l'intérieur de vous, c'est que quelque part, vous vous croyez encore limitée. Vous croyez qu'il y a encore quelqu'un de l'extérieur qui peut, nous dirons, exercer quelque pression sur vous. Cependant, si vous vous placez devant le soleil central, auquel vous êtes, nous dirons, totalement branché, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Même si l'ennemi était là, tout près de vous, il ne pourrait pas vous atteindre. Alors, profitez de cette occasion, de ce que vous avez vécu, pour solidifier votre foi dans cette certitude que le divin ne peut pas vous abandonner à des expériences qui seraient néfastes pour vous. Ceci ne veut pas dire de ne pas utiliser votre discernement, bien au contraire, mais la contemplation de la source développe le discernement. Celui qui contemple dans le silence chaque jour développe ce discernement à l'intérieur de lui et jamais il ne pose le pied là où il n'a pas à le poser.
Est-ce que la méditation du Om peut nous aider à traverser les miroirs?
Nous vous dirons, le son est un des éléments les plus précieux parce qu'il contient aussi la couleur et il contient la lumière. Si vous observez lorsqu'il y a une tempête, vous entendez d'abord le tonnerre. Ensuite, vous voyez d'abord l'éclair. Ensuite, vous entendez le tonnerre. Et ensuite, souvent, vous avez la pluie qui va se dégager et vous aurez l'orage. Ça, il ne faut pas avoir peur de cette réalité. Elle est une grande réalité très significative. Alors, la lumière et le son, vous voyez, s'accompagnent l'un l'autre. Et dans le son et dans la lumière, il y a cette énergie parfaite, l'énergie du triangle. C'est comme si c'était les deux énergies les plus parfaites qui engendrent la manifestation de la création, la manifestation de tout ce qui est. Lorsque vous chantez le Om, c'est que vous revenez à l'intérieur de vous. Vous faites un mouvement de retour vers le centre de ce que vous êtes. Et le son du Om contient des vibrations telles que ces vibrations se multiplient à l'infini et de façon exponentielle. C'est pourquoi ce son est considéré par les maîtres comme le son qui peut permettre d'évoluer. Bien sûr, si vous chantez le Om, non pas de façon distraite, mais véritablement de façon centrée, en sachant que chaque fois que vous prononcez cette syllabe, vous émettez à l'intérieur de vous une résonance telle que vos cellules puissent entendre le divin, alors nous vous dirons, bien sûr, la transformation va s'opérer à l'intérieur de vous. Et ce son que vous émettez est accompagné d'une lumière, même si vous ne la voyez pas. Et cette lumière, elle varie de couleur selon vos besoins. Alors, les uns peuvent chanter le Om et que tout à coup, la lumière violette s'agglomère autour d'eux s'ils ont besoin de guérison dans leur corps. D'autres peuvent chanter ce même son et être entourés de la lumière or, s'ils ont besoin, par exemple, de se solidifier dans leur état du divin, et ainsi de suite. Alors, le son du Om est un son qui attire des vibrations de couleurs selon, nous dirons, la nature de la personne qui émet ce son. Mais lorsque vous faites ce son de façon collective, alors il devient une vibration tellement puissante, aussi puissante que le prophète qui, jouant de la trompette, fit tomber le mur de Jéricho. Alors si tous ensemble, vous arrivez à le chanter chacun individuellement, sachant que vous êtes unis collectivement, vous avez un grand pouvoir de transformation sur le plan terrestre.
Est-ce qu'il y a une forme de prudence dans ce qui viendrait d'être dit par rapport à certaines âmes qui pensent, mais qu'en chantant que le Om, ben, je vais traverser les miroirs, tout simplement?
Alors, nous vous dirons, ils vont chanter le Om longtemps. S'ils n'ajustent pas cette conscience du son au travail qu'ils ont à faire dans leur propre transformation. C'est comme celui qui, par exemple, respecterait la loi du silence et de la contemplation, mais qui ne se détacherait pas de la matière, ou celui qui se détacherait de la matière, mais qui n'entrerait pas dans ce mouvement de silence et de contemplation. Lorsque l'enfant parlait de la traversée du miroir, il disait que cette traversée ne se faisait pas comme un bond, mais qu'elle se faisait de façon plus lente, c'est-à-dire comme une traversée acquise, c'est-à-dire un mouvement acquis à l'intérieur de l'être, un mouvement intégré à l'intérieur de l'être. Et ceux qui veulent créer des miracles pour traverser le miroir vont se heurter à leur propre masque, parce que ça, c'est l'ego.
Merci pour cette précision.
Merci pour la précision de la question aussi.
Alors, notre monde physique est image et similitude des autres mondes existants dans les autres plans, comme celui des Pléiades. Qu'y a-t-il pour nous, humains, à comprendre de ce miroir? Doit-on traverser avec notre conscience ce miroir?
Nous vous dirons... Vous parlez de cette loi qui dit « Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Nous avons déjà donné un enseignement lorsque nous avons parlé de cet homme qui voulait traverser le lac et qui était tellement émerveillé par la beauté de la nature qu'il voyait dans le lac qu'au lieu d'aller vers la montagne et vers le soleil qu'il voyait, il sautait dans le lac, il sautait dans son illusion. La matière, bien sûr, est le miroir parfait de ces univers, elle est le miroir du cosmos tout entier et des cosmos, parce qu'il n'y a pas qu'un seul univers, il y a une multitude d'univers, comme il y a une multitude d'univers dans votre corps physique, par exemple. Si vous aviez l'intelligence suffisamment développée pour uniquement comprendre tout ce que c'est une de vos cellules, vous vous sentiriez peut-être très ignorant. Alors sachez bien que ce qui est dans le monde de la matière est le miroir de ce qui est dans l'autre univers, cet autre univers vers lequel vous allez parce que votre conscience commence à s'élargir et que votre connaissance commence à, nous dirons, à se révéler à l'intérieur de vous. Elle est là, cette connaissance, mais elle n'est pas encore totalement éveillée, elle n'est pas encore totalement révélée. Cependant, nous vous disons, elle se révèle à mesure que vous vous détachez du miroir de la matière. Ce n'est pas qu'il faut nier la matière, ce n'est pas qu'il faut juger la matière, mais c'est qu'il faut savoir que la matière que vous voyez avec vos sens n'est que l'illusion de la matière réelle. Et lorsque vous allez commencer à percevoir le réel, alors cette matière que vous connaissez, elle va d'elle-même, nous dirons, disparaître ou d'une certaine façon se volatiliser. Elle est là actuellement parce que vous en avez encore besoin. C'est comme la terre sur laquelle vous êtes, qui est enceinte de la terre réelle, que vous ne voyez pas. Mais lorsque la terre nouvelle sera née, l'écorce, vous n'en aurez plus besoin. C'est comme le papillon, il ne s'attache pas à son cocon lorsqu'il a déployé ses ailes. Il quitte l'arbre et il va vers sa liberté. Il en est de même. Alors la matière que vous connaissez avec les sens, qui est une très grande école et qui vous enseigne ce que vous ne seriez pas capable d'apprendre autrement parce que vous n'avez pas encore l'intelligence, nous dirons, de l'autre matière, elle vous sert. C'est comme si elle était votre livre d'écolier. Mais lorsque vous avez terminé votre première année et que vous avez appris à joindre des lettres pour former des mots et former des phrases, vous n'avez plus besoin de ce livre. Vous pouvez le laisser aller et en choisir d'autres qui vous amèneront vers d'autres sciences. Alors c'est ça qu'elle est la matière. Elle est vos livres d'écolier. Mais lorsque vous aurez vraiment franchi l'étape que nous appellerons cruciale entre l'homme animal et l'homme super conscient, alors vous n'aurez plus besoin de cette forme de matière. Elle pourra se volatiliser. C'est pourquoi si vous vous y attachez, quelque part vous n'arrivez pas à connaître l'autre matière.
Dans la citation, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Est-ce que c'est encore bon, ça, de nos jours?
C'est très amusant. Si vous vous posez la question à vous-même, à vos milliards de cellules, que vous répondrait-elle, croyez-vous? Nous vous dirons quelque part, cette phrase est vraie, et quelque part, cette phrase peut changer de vibration. Lorsque Jésus, qui a donné cet enseignement, à, nous dirons, à un peuple qui était encore très limité dans sa compréhension, très limité dans sa conscience, il parlait pour ce moment-là. Et ce qu'il disait, c'est « Je parle à toute une foule, mais dans la foule, il y a peut-être 100 personnes qui auront saisi et qui auront compris ce que j'enseigne. » Nous vous dirons alors, il y en avait beaucoup qui étaient appelés, qui avaient bien sûr le goût de sortir de l'esclavage, mais en même temps, qui ne comprenaient pas le message d'amour et de libération exigé par Jésus. Maintenant, si Jésus revenait, il pourrait tenir encore le même langage, parce que nous vous dirons, à la conscience nouvelle, il y en a encore. Tous sont appelés, mais peu sont élus dans le sens que si vous voyez l'évolution comme une pyramide, vous allez voir par exemple que la base est beaucoup plus large. Et dans la base, ce sont ceux qui ne sont pas éveillés encore, alors qu'au sommet, ce sont ceux qui travaillent chaque jour à éveiller la conscience. Et lorsqu'ils traversent le miroir, ils s'en vont dans une autre dimension. Ils peuvent rester sur le plan terrestre et être dans cette autre dimension. Mais pour passer dans cette enclave étroite, nous vous dirons, ce n'est pas la masse tout entière qui y passe. Cependant, étant donné que les âmes qui évoluent élèvent tellement rapidement leur taux vibratoire et que la conscience prend tellement une grande expansion, nous vous dirons alors que beaucoup d'êtres seront appelés et seront, nous dirons, aspirés par la conscience en ayant travaillé moins que d'autres. Et alors, vous pouvez vous rapporter à la parabole de la 11e heure. Pourquoi celui qui s'était engagé à la dernière heure était-il payé le même salaire que celui qui avait travaillé le jour tout entier? Cela aussi pouvait paraître injuste. Mais si vous prenez ces deux paraboles et si vous les joignez l'une à l'autre, vous comprendrez qu'elles sont complémentaires.
Quel changement doit-on faire pour faire la traversée du miroir? Vous en avez parlé énormément, mais est-ce possible peut-être de greffer à cette question-là au niveau de la masse. Alors, quel support pouvons-nous apporter pour que des changements majeurs puissent se faire?
Dans la masse, dans la collectivité, nous vous dirons, il n'y a qu'une seule voie. Et c'est la voie royale. Et c'est la voie de retour à vous-même. Une seule personne qui investit, nous dirons, toute son énergie à retourner à elle-même et à redécouvrir le divin qu'elle est et à se libérer de toutes ses limitations, nous vous dirons, elle fait davantage que quelqu'un qui irait prêcher sur la place publique et qui ne s'adresse pas à son changement, même s'il parlait à 100 000 personnes à la fois. Alors la transformation véritable, elle se fait par le dedans. Il est bien aussi que vous deveniez des collaborateurs dans le sens que vous n'ayez pas peur de prendre la parole, de dire, d'exprimer ce que vous vivez. Et nous vous dirons de devenir à ce moment-là des semeurs de lumière. Vous savez, parfois, vous aurez parlé devant quelqu'un qui semblera bien sceptique, mais qui 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, vous reviendront et diront, te souviens-tu ce soir-là au restaurant, la petite phrase que tu as dite, eh bien cela m'a valu le tournant. Alors n'ayez pas peur de prendre la parole, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, n'ayez pas peur d'être le prophète de votre propre énergie. Cependant, sachez que vous deviendrez un faux prophète si vous annoncez des choses que vous ne transformez pas à l'intérieur de vous.
C'est possible de nous parler brièvement par rapport à notre miroir ou la traversée du miroir. Qu'est-ce que la multidimensionnalité vient faire dans ceci?
Bien sûr. Nous vous dirons d'abord, lorsque vous aurez traversé ce miroir dont nous avons parlé ce soir, avec toutes ces étapes à franchir, vous allez saisir de façon tellement claire que le temps n'existe pas et que vous êtes multidimensionnel. C'est-à-dire, lorsque vous serez au sommet de la pyramide du temps, le passé deviendra le présent et le futur sera le présent aussi, puisque vous serez en train de le créer. Alors vous aurez la capacité de voir la simultanéité de ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous pourrez voir que vous avez été à la fois le prophète et le roi et l'esclave et la femme et l'homme et l'enfant et celui qui a peur et celui qui a de la peine. Et vous allez voir que tous ces personnages, ils sont tous à l'intérieur de vous, comme vos milliards de cellules. Alors, à ce moment-là, il sera plus facile de saisir votre multidimensionnalité. Vous allez vous apercevoir que lorsque vous parlez d'un prophète, par exemple, qui vous touche beaucoup, vous avez des difficultés techniques?
On s'amuse un petit peu, puis j'accueille ça.
Très bien.
C'est bien. Merci. Merci.
Alors, nous vous disions que lorsque vous aurez cette compréhension du non-temps, cette compréhension de la non-espace, ceci ne veut pas dire que vous n'aurez plus de montre et que vous n'aurez pas à rentrer au travail à telle heure. Vous pourrez avoir cette conscience avant que, nous dirons, la masse tout entière soit suffisamment libérée du temps et que vous-même, vous puissiez être hors de ce temps. Mais lorsque vous comprendrez la simultanéité de tout ce qui existe, vous comprendrez que le prophète que vous voyez devant vous ou que l'ange que vous interpellez est uniquement une partie de vous, une prolongation de vous. Et lorsque vous aurez véritablement touché cette énergie d'unité, que vous aurez levé le masque de l'animalité pour voir véritablement l'être divin que vous êtes, vous allez voir que vous êtes la création tout entière. Alors vous serez Moïse, vous serez Abraham, vous serez Jacob, vous serez Michaël, vous serez tout ce qui est, vous serez l'arbre et la fleur, et le ver et le papillon, vous serez toute cette réalité. Et lorsque vous aurez atteint cette conscience à l'intérieur de vous. Vous ne vous demanderez plus ce que vous étiez dans la vie passée. Vous comprendrez que vous êtes la création tout entière.
Le livre de la vie impersonnelle est-il un bon outil à votre avis?
Certainement, mais comme tout outil, il a ses limitations. Bien sûr, quelque part, il propose une trajectoire, mais cette trajectoire, à un moment donné, pourra être dépassée. Il y a des enseignements très précieux dans ce livre, pour celui qui les comprend avec le cœur. Car vous savez, vous pouvez avoir 100 personnes dans cette pièce qui vont lire le même livre. Les uns diront, « Ce livre m'a tellement ennuyé, je me demande pourquoi je l'ai acheté. » D'autres diront, « Ce livre m'interroge, mais s'il ne me retient pas. » Et d'autres diront, « Ce livre deviendra mon livre de chevet. » Parce que chacun le recevra avec ce qu'il est. Parce que chacun l'assimilera avec sa propre connaissance et sa propre conscience et sa propre énergie. Alors, en parlant de ce livre, comme de beaucoup d'autres livres, sachez que chaque livre a un message à vous livrer et que vous devez le semer dans votre cœur comme une graine. Mais c'est vous qui êtes le jardinier et c'est vous qui êtes celui qui va récolter la semence. Ne vous attachez pas impunément à ce livre, mais sachez qu'il contient des enseignements qui sont précieux.
Plus j'enlève des masques, plus il m'en emparait d'autres. Est-ce sans fin ainsi?
Nous vous dirons, alors nous applaudissons ceci. Si plus vous enlevez des masques, plus il vous en apparaît, c'est que vous êtes en train d'évoluer rapidement et que votre trajectoire s'accélère. Mais viendra un temps où, au lieu de contempler vos masques, vous allez contempler le divin. Et lorsque vous allez contempler le divin, les masques vont se fondre d'eux-mêmes. Cependant, si actuellement vous recevez des vibrations qui vous permettent d'aller décoder des vies appartenant à des espaces antérieurs, nous vous dirons, n'hésitez pas à faire ceci. Actuellement, c'est comme si vous reveniez d'un grand voyage et que vous aviez 1000 valises et que vous deviez les défaire pour laver tout ce linge et pour, nous dirons, le transmuter dans une autre matière. Alors ne vous gênez pas, vous revenez d'un très long voyage. Ne vous gênez pas pour voir vos masques, pour les enlever, pour laisser les émotions monter et se libérer à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur de tout ceci, mais chaque jour, contemplez le divin.
Y a-t-il une méthode sans faille d'avoir enfin le sens profond d'être vraiment en face de soi-même, sans être dans une illusion?
Qu'est-ce qu'une méthode sans faille? Lorsque vous êtes sur un plan d'expérimentation, la méthode sans faille, c'est de revenir sans cesse à vous-même. Ça, c'est la voie royale. Ça, c'est le chemin par excellence. C'est le chemin le plus difficile parce que parfois, il semble vous isoler des autres. Par contre, il fait le contraire. Mais nous vous dirons, même le divin se parfait. Alors, pourquoi cherchez-vous quelque chose sans faille? Tout ce qui est appelé à se parfaire, à se transformer, à évoluer, à changer, à devenir de plus en plus, nous dirons, ce soleil central qui lui-même, par sa propre création, se parfait lui-même. Mais direz-vous, est-ce que Dieu est imparfait? Nous vous dirons que Dieu est si parfait qu'il accepte de se parfaire.
Est-ce que tous les êtres humains vont traverser le miroir d'ici une trentaine d'années ou seulement une partie d'eux?
Ils ont le choix. Le choix n'appartient pas. Le choix n'appartient à personne d'autre qu'à chaque être humain. Cependant, nous vous dirons que les miroirs ont des étapes et que la transformation a des étapes multiples. Lorsque nous parlions des plans de l'astral, nous parlions de 49 plans. Lorsque vous parlez, par exemple, des vibrations que vous avez à traverser pour véritablement contacter l'énergie de la source, vous pouvez parler de 250 ou de 255 différentes étapes à traverser. Ça, c'est du langage, ce sont des mots. Mais parfois, dans une journée, vous pouvez traverser 1000 étapes. Ce n'est pas important de savoir combien vous en traversez et comment vous allez le faire. Ce qui est important, ce n'est pas non plus de savoir combien il y aura d'êtres humains qui vont traverser et combien il y en aura qui ne traverseront pas. Car ceux qui ne traverseront pas vers cette nouvelle étape de conscience, nous vous dirons, ils iront dans d'autres vibrations, ils vivront, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Alors ils iront dans les demeures qui leur sont appropriées et il n'y a pas de jugement à porter sur ceci. Si votre regard est tourné vers le divin, vous devenez un ascenseur pour ceux qui dorment. Alors, au lieu de vous inquiéter de savoir comment cela va se faire, tournez-vous plutôt dans cette contemplation de l'absolu et de l'infini que vous êtes.
Conséquemment à cette question, il y en a une autre question qui demande, c'est l'histoire de combien de milliers de vies pour arriver enfin à cette traversée du miroir?
Nous vous dirons plusieurs milliards. Plusieurs milliards d'années. Et nous vous dirons, pour arriver à traverser cette trajectoire, pour arriver à traverser cette étape que vous appelez le miroir, et que nous appelons la transmutation de la race, c'est-à-dire la race qui sort de son animalité, comme autrefois elle est sortie de la pierre, où elle est sortie du poisson, et qu'elle est devenue un homme animal, c'est-à-dire qui est encore soumis à ses sens, à la loi d'attraction et de répulsion, pour être capable de franchir une étape où vous allez vers une autre forme d'être que vous n'appellerez plus être humain, mais que vous appellerez être de conscience totale, où nous vous dirons, c'est difficile à définir. Et vous savez, c'est comme si vous nous demandiez, si vous étiez devant une toile qui mesure plusieurs mètres de long et que vous nous disiez combien y a-t-il de fois que le fil est passé dans la trame pour être capable de faire cette pièce. Ce n'est pas important le nombre d'années, ce n'est pas important le nombre de personnes. Ce qui est important, c'est que vous soyez enligné sur cette conscience. Vous savez, votre mental vous détourne par toutes sortes de questions pour être capable de définir les choses, les mettre dans des petites boîtes, les loger dans votre ordinateur et parfois les servir devant les gens pour nourrir votre ego. Ce qui nourrit moins l'ego, c'est le retour à soi-même. Mais ça, c'est la voie capitale.
Est-ce possible de conclure à ce moment-ci?
Bien sûr. Conclure quelque chose qui n'a pas de conclusion. Mm-hmm. Conclure, nous dirons, un enseignement qui est sans fin, puisque vous êtes sans fin, puisque vous êtes toujours en mouvement, dans cette immense énergie de la création. Alors, ne laissez pas les limitations s'emparer de vous. Ne laissez pas non plus les tensions s'emparer de vous. Et vous dire sans cesse, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pour demain? Est-ce que c'est pour après-demain? Laissez-vous donc être ce fœtus dans ce grand cosmos qui se développe à son rythme, dans la paix, dans la sérénité et dans la certitude du Dieu qu'il est. Alors que la paix, que nous dirons que la lenteur et qu'une longue patience avec vous-même vous accompagne. Nous vous aimons d'un amour tellement grand.
Alors nous accueillons cet amour en sachant que c'est également le miroir du même amour qui nous habite.
Nous recyclons votre amour et nous vous le servons sur un plateau d'argent.
Alors nous remercions le chariot blanc pour cette réflexion. Et nous accueillons ceci dans le son, le souffle et la lumière.
Amen.
Alors, suivant le besoin, veuillez, s'il vous plaît, ajuster tout au vibratoire, le système sanguin et tout système physiologique qui ont pu être ralentis au niveau de la forme, afin que ceux-ci reprennent leur vibration dans le ici et maintenant.
This is done.
Alors que ce corps se réveille, se sentant pleinement régénéré et complètement équilibré.